cœur des métiers.
Aujourd'hui, nous recevons Oumar Ramamorti, médecin urgentiste en dernière année d'internat. D'origine indienne, Oumar est arrivé en France à 8 ans à Montataire, à côté de Creil, dans l'Oise, où elle a été scolarisée. Elle ne parlait pas un mot de français. Bonjour Oumar, comment allez-vous? Est-ce que votre journée s'est bien passée? Nous sommes la classe de 5e mine du collège Montaigne. Je m'appelle Noé.
Je m'appelle Lucas.
Je m'appelle Iman.
Je m'appelle Leïla.
Je m'appelle Grace.
Je m'appelle Lamine.
Je m'appelle Issa.
Je m'appelle Noah.
Nous nous intéressons à votre métier et au métier du domaine de la médecine. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Eh ben, bonjour tout le monde. Enchantée d'abord. Moi, c'est Oumar Ramamorti. Content d'être là. Et c'est avec un grand plaisir que je vais répondre à votre question.
En quoi consiste votre métier?
Alors, en quoi consiste mon métier? Alors d'abord, moi, je suis interne en médecine. Interne en médecine, c'est un médecin qui est en cours de spécialisation. Donc, voilà, il y a le parcours médical, on va en parler. Mais pour le moment, on se spécialise dans un domaine que moi, j'ai choisi urgentiste. Donc pour le moment, je me spécialise dans ça. Après, quand vous dites en quoi consiste, vous voulez plus de détails, c'est ça? Alors, en tant que médecin urgentiste, hein, j'ai parlé de mon domaine, on est aux urgences. C'est un métier assez polyvalent. On accueille des patients qui arrivent aux urgences, donc on accueille tout le monde. On n'a pas le droit de refuser des patients. C'est des patients qui arrivent avec plus ou moins d'urgences. Donc déjà, il faut les trier, il faut les soigner. On intervient également dans les accidents de route, donc au domicile ou dehors, s'il arrive quelque chose. On fait également de la régulation. Donc, quand quelqu'un appelle le 15 et qu'on passe un médecin, on participe aussi à ça. Voilà.
Et c'est que vous faites des vaccinations?
Vaccination, oui. On fait des vaccinations. Après, en soi, le geste en soi, c'est un geste infirmier. Mais on est emmené aussi à en faire si besoin.
Quels sont les autres métiers avec lesquels vous travaillez? Et quel est leur niveau d'études?
Alors, les médecins, surtout à l'hôpital, parce qu'en libéral, c'est différent, mais à l'hôpital, c'est vraiment une équipe qu'on appelle les soignants, en général. Donc, il y a les médecins, les infirmiers, il y a les aides-soignantes, il y a les agents de service hospitalier, ceux qui font les ménages, qui entretiennent, il y a les brancardiers, les secrétariats, il y a énormément de personnel qui gère l'hôpital, donc tout le monde a son rôle à jouer et c'est très important. Il n'y a pas de, en soi, on a des responsabilités plus importantes en tant que médecin, mais il n'y a pas de métier plus grand que l'autre. C'est comme un maillon en fait, et il suffit qu'il en manque un pour que ça ne fonctionne plus. Donc tout le monde a sa part à jouer pour que l'ensemble fonctionne.
Quand une personne des services n'est pas là, comment le service fonctionne-t-il? Plus particulièrement, comment on remplace un chef de service si celui-ci est brutalement empêché d'exercer son métier?
Alors, quand une personne, ça dépend qui manque. Par exemple, il est arrivé que si un médecin manque, on essaie de gérer avec les médecins qui restent. C'est encore plus compliqué quand c'est une infirmière ou une soignante qui manque à ce moment-là, parce que eux, ils ont des soins à apporter aux patients qui sont beaucoup plus importantes. Ils passent beaucoup plus de temps avec le patient. Donc, c'est eux qui vont faire les pansements, qui vont distribuer les médicaments, tout ça. Donc, en tant que médecin, on peut facilement pallier s'il manque un médecin. On va distribuer les patients qui restent avec les collègues qui restent. Mais parfois, quand il y a des paramédicales comme les infirmières ou aides-soignantes qui manquent, on est obligé de parfois fermer des lits ou faire appel à des intérims. Donc, c'est un peu compliqué. Pour le chef de service, c'est différent. S'il est absent une journée, le service va continuer à tourner, il n'y a aucun souci. Mais après, s'il part définitivement et qu'il faut le remplacer pendant plusieurs semaines, là, je pense que c'est la direction qui doit recruter un autre chef de service.
Quels sont les pourcentages des personnes hospitalisées qui sont sauvées?
Alors, ça dépend de quel service. Euh, tous les gens à l'hôpital qui sont hospitalisés à l'hôpital, ils n'ont pas leur vie qui est mise en jeu. Donc souvent, c'est des petites interventions ou des hospitalisations pour un soin. Après, si on prend la réanimation, on voit beaucoup de décès. En temps général, il y a quand même 70% de personnes qui sont sauvées en réanimation. Chose qui était un peu modifiée, même beaucoup pendant le Covid. On a vu quand même énormément de décès. Mais en général, il y a quand même 70% de survivants.
Si vous êtes auprès d'un malade dans une ambulance et que celle-ci a un accident, que se passe-t-il ?
C'est qui a imaginé le scénario ? C'est toi ? Du coup, dans l'histoire, du coup, moi, il m'arrive quoi ? Je décède ou je suis grièvement blessée ou je vais bien et je suis en capacité de soigner ? Tout dépend de... Dans quel contexte ? Alors, si je décède, oui, malheureusement, les gens présents vont appeler du secours pour aider ceux qui sont encore vivants. Si j'arrive encore à soigner, je vais continuer de soigner tout en appelant, si besoin, des collègues. Et si je vais bien, bah, je prends en charge les blessés et puis on court à l'hôpital.
Combien d'heures travaillez-vous par jour ? Combien avez-vous de jours de congé par an ? Vous travaillez combien de jours avant d'avoir des repos et combien de repos ?
Combien d'heures on travaille ? Alors, les médecins, ils travaillent 48 heures. Ça, c'est dans la théorie. Après, nous, en tant que médecins, encore en cours de formation, on travaille énormément d'heures. En fait, on n'a pas vraiment d'heures fixes. Ça peut aller jusqu'à 80 heures par semaine, voire plus. Moi, il y a des services où j'ai été, je commence à 8 heures et tous les jours, on finissait plus ou moins 21 heures, 22 heures. Ça nous arrivait. Et comme il y a des stages où on termine à 19 heures, on commence à 9 heures. Donc, c'est vraiment stage dépendant. Et puis, ça sera un peu plus réglementé quand on sera diplômé médecin. Et c'était quoi l'autre question ?
Combien avez-vous de jours de congé par an ?
Alors, congé, normalement, on a 5 semaines par an qu'on peut répartir au courant de l'année. Et concernant le nombre de... À quel moment on a des repos, c'est ça ? Normalement, les week-ends, on n'est pas censé... les week-ends, comme tout le monde, mais on a pas mal de gardes, donc souvent, les week-ends sont pris aussi. Donc, tout dépend de nombre de gardes qu'on prend, qu'on est emmené à être fait. Donc, souvent, on peut avoir 2 week-ends dans le mois de repos, plus ou moins.
Quels sont vos avantages, par exemple, consultation gratuite ? Et quel est votre salaire aujourd'hui et après combien d'années d'études ?
Si on a des avantages, non. On n'a pas d'avantages spécifiques. Après, si. En fait, il s'est dit que c'est une loi un peu tacite. Hein. Ce n'est pas une vraie loi qui dit qu'entre soignants, on doit se soigner gratuitement. Donc souvent, quand on se présente pour se faire soigner, on ne se présente pas forcément en tant que soignant. Ça peut être un peu mal vu. Dans tous les cas, on n'a pas d'avantage particulier. On fait comme tout le monde. S'il nous arrive quelque chose et qu'on doit aller aux urgences, on fait la queue comme tout le monde. Il n'y a pas de privilège particulier. Concernant le salaire, c'est très variable en fonction des spécialités, en fonction également si vous êtes médecin hospitalier ou en libéral. À mon niveau, quand on est interne à l'hôpital et qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore thésé, qu'on n'est pas encore médecin à part entière, on a un salaire de base quand on débute la première année, un peu plus que le SMIC, donc 1 400 €. Et puis chaque année, on monte un peu de grade. Donc là, j'ai fini ma deuxième année, donc ça tourne autour de 1 700, sans compter les gardes. Après, on a les gardes qui sont payés en plus.
Quand un docteur sauve beaucoup de personnes ou trouve des nouveaux moyens de sauver des gens, est-il récompensé ? Et si oui, comment ?
Si on est récompensé, c'est ça, si on sauve... Non, après, ça fait partie de notre métier, donc c'est pas quelque chose qu'on attend forcément. On sait que ça fait partie de notre métier, donc soigner ou sauver des vies, c'est quelque chose de normal pour nous, donc il n'y a pas forcément de récompense. Après, en revanche, quand on fait, enfin, ça c'est dans tous les domaines scientifiques ou même hors scientifiques, quand on fait avancer la science et qu'on trouve quelque chose de nouveau qui va sauver beaucoup de personnes, à ce moment-là, je pense qu'il y a des prix Nobel qui sont récompensés et c'est une sorte de prime, je pense. Je crois que c'est 1 million d'euros ou quelque chose comme ça. Et c'est choisi une fois par an dans le monde entier, une personne qui va bénéficier de ça en fonction de la recherche qu'elle aura faite. Mais sinon, en tant que médecin, non, on n'a pas de genre d'avantage.
Quel est votre parcours scolaire, puis celui de vos études de médecine ?
Parcours scolaire. Donc moi, je suis arrivée en France vers l'âge de 10 ans. Sans savoir parler français. Donc, on est une première génération en France. Donc, c'était un peu laborieux au début. On va apprendre le français un peu sur le tas, où on ne comprenait rien. Après, j'ai fait un parcours un peu classique, collège, où j'étais bien en sciences, dans les maths, dans tout ce qui est sciences. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Après, c'était la curiosité qui a fait que je m'intéressais à beaucoup de choses. Donc, j'ai fait un parcours classique collège, lycée scientifique, et après le lycée, j'hésitais un peu entre médecine et ingénieur. Et je me suis dit, c'est mieux d'aller dans une école d'ingénieur, en prépa ingénieur, et après changer si besoin, parce qu'ingénieur, c'est beaucoup plus scientifique que médecine, entre guillemets. Donc, j'ai fait une première année de prépa ingénieur, quelques mois, qui ne m'ont pas plu. Donc, j'ai changé après dans le cursus médical. Et puis après, cursus médical, c'est première année où on a un concours. On est pas mal filtré. Et quand on réussit le concours, après, on rentre pendant 6 ans dans une phase où on est entre étudiant et un peu stagiaire à l'hôpital. Et après la 6e année, on choisit, on a un deuxième concours en médecine. Et en fonction, on choisit la spécialité qu'on veut. Et après, c'est entre 3 et 5 ans en fonction de choix qu'on fait.
En quoi faut-il être fort pour faire médecine ? Quelles sont les conditions pour réussir ?
En quoi il faut être fort ? Beaucoup de par cœur, beaucoup de mémoire. Comprendre un peu de science. On n'est pas obligé d'être super calé à tout ce qui est maths, physique, mais il faut comprendre dans l'ensemble. C'est important de, justement, beaucoup négligent cette partie un peu physiopathologique, comment fonctionnent les organes pour traiter. Ils essaient d'apprendre un peu par cœur. Chose qu'on se rend compte que plus tard, que quand on sait comment chaque organe, comment chaque tissu fonctionne, et ben c'est un peu plus simple de se dire après pourquoi ça ne fonctionne plus et comment les soigner.
Qu'est-ce que vous avez pratiqué pendant vos stages ?
C'est vaste comme question. Qu'est-ce qu'on a pratiqué ? Un peu de tout. Entre la phase, la première année, une fois qu'on a réussi le concours, jusqu'à la 6e année, c'est une phase où on découvre un peu toutes les spécialités. Donc, on passe un peu dans plusieurs stages différents. Et dans chaque stage, c'est pas les mêmes pratiques. Donc, par exemple, en chirurgie, on apprend à suturer, à plâtrer. Aux urgences, pareil. À prendre en charge des patients qui viennent dans chaque spécialité, c'est pas pareil. Donc, voilà. Après, les techniques en soi, c'est pas les techniques poussées parce qu'on est encore étudiant. Mais voilà, c'est polyvalent.
Avez-vous des stagiaires ? Si oui, de quel niveau ? Et vous leur demandez et confiez quoi comme tâche ?
Alors, en tant que médecin, on a beaucoup de stagiaires dans le sens. On a des étudiants en médecine qui sont sous nos directions directement. En fait, c'est ceux-là qu'on prend en charge et qu'on les aide. Après, autour de nous, il y a beaucoup d'étudiants infirmiers, beaucoup d'étudiants aides-soignants. Donc, on est aussi emmenés à travailler avec eux. Et parfois, quand ils ont des questions, on est là aussi pour répondre à leurs questions ou leur montrer certains gestes qui... c'est parfois des gestes infirmiers, mais qu'on doit savoir aussi les maîtriser. Donc, quand ils sont en difficulté, on leur montre aussi certaines choses. Voilà. Après, c'est chaque paramédical ou chaque soignant, ils ont leur propre apprenti, en fait, qu'ils prennent en charge. Donc, nous, c'est surtout les étudiants médicaux.
Est-ce qu'on vous a forcé ou incité à faire ce métier, ou est-ce que vous l'avez choisi ? Si oui, pourquoi ?
Forcé, non. J'ai eu aucune pression au niveau familial. Comme je disais, arrivé au lycée, on hésitait un peu. On était dans une lycée un peu scientifique. savais pas trop à quoi on pouvait. Enfin, normalement, soi-disant, les lycées scientifiques ouvrent à tous les portes. Mais ce qu'ils nous ont présenté, on n'a pas eu beaucoup de présentations ou d'orientations. Donc, c'était surtout médecine, droit ou ingénieur. Donc, on n'avait pas beaucoup de choix. Et comme j'ai hésité entre ingénieur et médecine, comme je vous avais expliqué, bah, je suis partie là-bas et puis je suis venue en médecine. Après, pourquoi médecine ou... Moi, j'avais des projets un peu humanitaires. Donc, je me suis dit... La médecine, ça pouvait m'aider dans les deux sens, financièrement et pour intervenir sur des terrains à l'étranger en tant que médecin, si besoin.
Quel est le niveau d'études des autres métiers de la médecine?
Niveau d'études, ça dépend de quel métier. Par exemple, les infirmières, c'est plus ou moins 3 ans. Et après, on a des super infirmières qui sont plus ou moins spécialisées en chirurgie, donc ils font 4 ans. Les aides-soignantes, c'est 1 an, mais avec beaucoup de stages pratiques. Après, tout ce qui est brancardier et tout, je sais pas, probablement de la pratique aussi. Mais c'est beaucoup, enfin, chaque cursus, ils ont leur propre niveau de, enfin, études, je pense. Je connais pas trop en détail, mais oui, c'est probablement les infirmiers, c'est ça, et les aides-soignantes. Après, dans le cursus, en tant que soignant, vous avez pas mal de théories, mais également de pratiques. Donc, tout au long de votre cursus, vous faites énormément de stages dans plusieurs services à l'hôpital, qui vous permet également de pratiquer ce que vous apprenez. Donc, ça, c'est très intéressant.
Quel est le niveau scolaire d'études des autres métiers de la médecine?
Pour entrer dans le cursus médical, c'est ça? C'est souvent après le bac, en fait, vous faites collège, lycée, et puis une fois que vous avez fini votre bac, et vous pouvez vous inscrire à la faculté de médecine. Après, il y a plusieurs... c'est un peu rare, mais c'est pas forcément ouvert qu'au bac scientifique, contrairement à ce qu'on croit. J'ai eu des collègues en première année de médecine qui ont fait des bacs professionnels, et qui certains ont très bien réussi, alors que d'autres qui ont fait des bacs scientifiques, ils n'ont pas réussi. Donc tout dépend du niveau de motivation, l'implication que vous avez sur le moment. C'est beaucoup de... En fait, on a l'impression qu'on recommence un peu tout à zéro. Donc tant que vous êtes vraiment curieux de ce que vous faites et que vous êtes vachement impliqué, il y a toujours moyen. Donc il y a eu des exemples. Donc voilà, c'est pas forcément fermé. D'autant plus que maintenant, ils ont ouvert pas mal de passerelles en médecine. Donc pour que les gens puissent rentrer et sortir quand on n'y arrive pas. Donc on a également des licences de biologie ou autres qui peuvent aussi switcher en médecine. Même si ça reste quand même des cas assez... assez rare.
Qu'est-ce qui est difficile dans le métier de médecin?
Qu'est-ce qui est difficile? Il y a une charge importante de travail, donc c'est beaucoup de responsabilités, donc il y a beaucoup de fatigue physique et morale aussi, parce que voir des malades tous les jours, parfois des patients assez graves, c'est pas forcément évident. Voilà, donc tout dépend de ce que vous voyez comme cas et comment nous on les prend, parce que parfois c'est pas forcément évident quand on débute de voir autant de... On prend un peu le malheur des gens comme ça et on n'est pas forcément préparé, donc c'est pas forcément évident. Et avec l'expérience, on apprend à y faire face.
Est-ce que vous arrivez à dormir sachant que vous ne pouvez pas sauver tout le monde?
Tout dépend comment, dans quel état d'esprit on est venu faire, dans quel état d'esprit on a choisi le métier. Quelqu'un qui dit je choisis médecine en se disant je vais pouvoir sauver tout le monde, oui, il va être très déçu, il va probablement quitter le métier. On sait que quand on choisit ce métier, c'est pas forcément pour sauver tout le monde. On va apporter un soin, on va essayer de faire notre mieux pour sauver qui on peut ou s'ils sont sauvables ou pas. Et puis d'autres, malheureusement, ça fait partie du métier. Donc, c'est pas évident, mais avec l'expérience, on y fait face. Et puis, on est tellement fatigué avec le nombre de travail qu'on fait ou le nombre d'heures qu'on fait que souvent, quand on rentre le soir, on dort facilement. Après, ça nous arrive aussi de cogiter sur un patient qu'on a laissé un peu en état critique et qu'on a soigné, mais on ne sait pas comment il va passer la nuit. Parfois, ça nous arrive d'envoyer un message à un collègue pour savoir comment il va ou est-ce que ça va mieux. Donc, voilà, c'est toujours important de faire la part des choses. C'est pas forcément évident de couper le matin le travail, puis le soir en rentrant à la maison, de dire on met de côté, donc, mais il faut y arriver.
Quels sont vos merveilleux souvenirs et les plus mauvais ?
Merveilleux. Merveilleux souvenirs, souvent, quand on arrive à bien soigner les gens et qui nous remercient derrière. Et qui disent merci, j'ai bien compris vos explications, vous m'avez aidé, ou quand on arrive à soigner quelqu'un, ça nous fait toujours plaisir. Donc c'est aussi une motivation pour continuer à avancer dans ce métier, qui n'est pas forcément évident. Parfois, malgré le soin qu'on apporte, on espère toujours un petit miracle, et en se disant voilà, on a tout fait, mais on espère que la personne va s'en sortir et que c'est plus trop de notre ressort. Arrive à un stade et que parfois il y a des miracles qui arrivent et que certains s'en sortent alors qu'on n'y croyait pas. Donc c'est des bons moments à ce moment-là. Et les mauvais souvenirs, moi j'ai un faible pour les enfants. Donc tout ce qui concerne les enfants qui sont malades ou les enfants qui arrivent très handicapés, j'ai fait un stage dans un service où on avait beaucoup d'enfants handicapés. Ça, c'était un moment très, très particulier où c'était des enfants qui vont être comme ça toute leur vie. Donc, être avec eux au quotidien et de voir qu'ils sont limités à ça, c'est très difficile.
Quelles sont les préparations pour opérer quelqu'un ? Est-ce toujours la même chose ?
L'opération, quels préparatifs on fait pour le patient ou nous, mentalement, ce qu'on fait comme préparation ?
Les deux.
Les deux ? Pour le patient, déjà, c'est important de lui prévenir ou de lui expliquer ce qu'on va faire. Souvent, avant une opération, on va les endormir. Donc, c'est important qu'ils aient une consultation anesthésique pour leur expliquer comment on va procéder, est-ce qu'il y a des risques quand on les endort, tout ça. Et après, c'est toute la préparation autour. Il faut qu'il soit bien propre, bien douché, tout ça, tout ça. Et puis, en tant que médecin, je pense que les chirurgiens qui opèrent, ils doivent avoir leur propre rituel. Mais après, comme c'est tout dépend si c'est un jeune médecin ou pas. Mais si c'est des médecins expérimentés, ils ont leur pratique, ils ont les outils spécifiques, ils ont leur équipe spécifique. Ça m'est déjà arrivé de voir un chirurgien qui a refusé d'opérer parce qu'il n'avait pas son propre outil. Donc certains, ils ont leur petit, habitudes qu'ils sont obligés de respecter. Ils y croient en quelque chose, mais voilà. Ils se préparent, je pense, mentalement, comment les procédures à suivre. Je pense que c'est important de se concentrer.
Un blessé par balle, par un couteau, un accident de la route, un malade.
Est-ce que c'est les mêmes patients ? C'est ça, si c'est un couteau en fait, en soi, c'est le même geste, mais souvent, la personne est différente. Donc, peu importe la pathologie, souvent, c'est une personne différente. Donc, il suffit que c'est la même maladie qui arrive à beaucoup de gens, mais ça ne sera pas la même prise en charge parce que chaque personne est différente. Et tout dépend de coup de couteau, à quel niveau c'est pris, un coup de balle, à quel niveau c'est pris. Quelqu'un qui prend un coup de couteau au niveau du bras, c'est moins grave qu'au niveau du ventre, au niveau d'un organe qui va saigner. Donc, chaque personne est différente et on a beau se dire c'est la même chose, c'est jamais la même chose.
Est-ce qu'il peut arriver qu'on conclue qu'une personne est morte alors qu'elle revit un instant après ?
Ça arrive, en fait, c'est des choses. Il y a des épisodes, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ils parlent des épisodes de mort imminente. C'est des personnes, à un moment donné, ils décèdent, donc ils ont un arrêt cardiaque ou on considère comme décédés, et puis ils reviennent à la vie. Probablement, pour le moment, c'est des choses qui sont encore mal expliquées par la science, c'est encore en recherche, mais on se dit que c'est peut-être une phase, en fait, il y a plusieurs phases dans le décès, donc c'est peut-être une phase précoce qui fait que le corps imite un décès et qu'au final le cerveau récupère derrière. C'est aussi un peu comme un arrêt cardiaque, on récupère dehors par massage ou par intervention médicale. Donc à un moment donné, on les considère, ils ont plus d'activité et qu'après on peut les récupérer.
Comment récupérer un organe sur une personne pour le donner à une autre personne? Est-ce que l'utilisation des organes d'une personne qui meurt est considérée comme du trafic d'organes?
Alors, en France, le don d'organes, c'est très, très cadré par des lois. Donc, chose qui n'existe pas dans certains pays. Donc, c'est justement pour éviter le trafic d'organes. Ici, il y a trois principes qui sont très, très importants. Donc, c'est le choix du patient, donc le consentement. Il y a une loi récente, je crois que c'était en 2017, qui dit que toute personne qui n'enregistre pas son nom sur le refus, sur le registre national des refus, est considérée comme donneur potentiel. Donc en gros, si moi je dis pas que pendant mon vivant je veux pas donner mon organe, si je décède, potentiellement on peut prélever mon organe. Ça veut dire que je donne un accord tacite. Il y a ce principe-là, le principe de l'anonymat, ça c'est vachement important, que personne sache qui a donné à qui pour éviter de justement qu'il y a des soucis derrière. Et le principe de gratuité, ça c'est très important également. C'est ça qui fait que tout est protégé derrière quand quelqu'un décède. On regarde déjà, c'est pas tous les décès, c'est pas tous les morts qui peuvent donner leur organe. C'est dans des conditions très particulières. Il faut que les organes fonctionnent encore. Il y a plusieurs organes qu'on peut prélever. Et à ce moment-là, il y a plusieurs équipes de l'hôpital qui se mettent en contact. Il y a un organisme qui va gérer la liste des donneurs et la liste des receveurs. Donc, quand potentiellement on a un décès et qu'on peut prélever les organes, on fait un signalement. Il y a une équipe dédiée qui va venir à l'hôpital, qui va discuter avec la famille, parce que la famille est très importante aussi pour faire le deuil derrière, parce que c'est pas non plus anodin de dire que oui, l'organe de mon mari ou de mon enfant va aller pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un aspect très important. Et puis, c'est eux qui vont organiser, tout coordonner pour que la personne dans un autre hôpital soit prête à être, par exemple, greffée d'un organe. Et il y a une équipe qui va prélever, il y a une équipe qui va acheminer l'organe et puis qui vont aller greffer au donneur.
Les organes d'une personne de 50 ans donnés à une personne jeune vont-ils se détériorer plus rapidement et raccourcir la vie de la personne sauvée ?
En fait, on considère que quelqu'un qui a besoin d'un organe, c'est que son organe-là ne fonctionne plus. Donc souvent, la médecine fait qu'on les maintienne plus ou moins en vie le temps qu'ils ont un organe. Il n'y a pas de limite d'âge en France pour donner un organe. Tout dépend de, au moment du décès, dans quel état est votre organe. Donc, si votre organe marche encore, à tout moment, on peut prélever pour le greffer à un jeune. On se dit qu'il vaut mieux que le jeune ait un organe qui fonctionne, mais d'une personne âgée, qu'il n'ait pas du tout d'organe et qu'il décède comme ça. Donc l'idée, c'est de quand même prélever l'organe, même si c'est une personne âgée, tant que l'organe continue de marcher. On va le greffer à un patient jeune. Et puis, si cet organe ne marche plus dans 5-10 ans, et à ce moment-là, il va être remis sur la liste des receveurs et on va chercher un autre organe. Mais au moins, ce laps de temps, il aura reçu un organe.
Peut-on donner son sang une fois mort? Quelles sont les conditions pour être donneur de sang?
Le don de sang quand on est décédé, c'est très particulier. Théoriquement, c'est possible. Pratiquement, c'est quasi impossible. En gros, quand quelqu'un décède, le sang, c'est une liquide qui va se coaguler. En fait, ça va créer des sortes de caillots à l'intérieur. Donc, en gros, dans un délai d'une heure, on peut se dire potentiellement, c'est encore possible de prélever le sang. Et les lois qui légissent, qui peut donner le don de sang, c'est exactement comme quelqu'un qui est vivant. Il y a des listes à respecter, tout le monde ne peut pas donner le sang. Il y a des contre-indications, en gros, quelqu'un qui a une infection qui est transmissible par le sang, il ne peut pas donner, quelqu'un qui s'est fait tatouer, par exemple, récemment, il ne peut pas parce que potentiellement, il y a une inflammation autour et on ne sait pas ce qui est parti dans le sang. Il y a potentiellement une infection. Genre de condition, c'est applicable aussi quand quelqu'un, la personne est décédée. Donc, pour vraiment chercher toute la liste des contre-indications et de voir si potentiellement il est donneur ou pas, dans ce laps de temps d'une heure, c'est très compliqué à mettre en place. Et une fois qu'on est décédé, bah, ça fait aussi partie de comme un don d'organes, en fait. Donc, pendant votre vivant, vous pouvez choisir « je veux donner cet organe, je veux donner mon sang ». C'est possible dans la théorie, mais en pratique, c'est très, très difficile. Et les conditions pour donner du sang, bah, encore une fois, c'est pareil. Il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas être anémie. Enfin, il y a toute une liste qui fait qu'on ne peut pas donner, mais dans beaucoup de cas, c'est possible.
Pourquoi les morts ont-ils les yeux ouverts? Est-ce qu'il y a encore des signes de vie après la mort, comme bouger?
Alors, tous les morts, ils n'ont pas les yeux ouverts. En fait, les yeux, c'est comme un muscle. Autour des yeux, tu as des muscles. Et du coup, quand on est vivant, on peut les bouger. Et pareil, quand ils décèdent, tout dépend de s'ils décèdent ouverts, avec les yeux ouverts, si avec les yeux fermés. Une fois qu'ils décèdent, les muscles ne bougent plus. Donc, si la personne décède avec les yeux ouverts, bah, le muscle ne va pas se refermer sur lui-même. Est-ce qu'il peut y avoir des mouvements une fois qu'ils sont décédés? Oui. En fait, quand un bébé est né, il a des réflexes un peu qu'on appelle des réflexes archaïques. C'est des réflexes c'est pas volontaire en fait, c'est inconsciemment, c'est des réflexes comme quand vous prenez le bras d'un bébé, il va vous l'attraper, mais c'est pas volontaire en fait, c'est quelque chose fait naturellement par le corps humain pour la survie en fait. C'est comme quand vous touchez le tour du bouche du bébé, il va tourner pour aller téter en fait. C'est des mécanismes qui ont été créés pour s'adapter à la vie. Et pareil, quand on décède, en fait, on a le cerveau et on a un bout de cerveau un peu autonome ici qui fait que quand le cerveau, il décède, parfois, le cerveau un peu autonome, il va prendre le relais très brièvement. Et à ce moment-là, pas dans tous les cas du décès, tout dépend de quel décès, il peut y avoir des mouvements un peu archaïques, un peu des mouvements réflexes, qui fait que parfois c'est un peu c'est très difficile pour la famille parce qu'on leur dit le patient est décédé et qu'il y a quand même un peu de mouvement, donc ils croient que le patient il est revenu à la vie et que c'est un peu, ça donne un peu de faux espoir, mais c'est des réflexes un peu enfin la personne n'est plus là mais le corps prend un peu le relais très brièvement, mais ça s'arrête en quelques secondes, quelques minutes.
Des outils de médecine peuvent être des armes. Dans quelles conditions la loi les autorise-t-elle en salle d'opération?
Oui, ça peut être considéré comme des armes potentiellement. Enfin, c'est un couteau, des scalpels. En fait, ça fait partie du métier parce que quand un chirurgien se forme, et ben, il va travailler, c'est les outils du chirurgien. C'est comme un boucher qui va travailler avec un couteau ou les policiers ou les gendarmes qui travaillent avec un pistolet. C'est la profession en soi qui les autorise à utiliser. Donc, en soi, quand vous passez le diplôme, bah, vous êtes apte physiquement et mentalement. Il y a des suivis médicaux réguliers qui fait que on doit avoir un certificat d'aptitude mentale et physique qui nous permet d'exercer ce métier. Donc, quand on les passe, bah, on est considéré apte à les utiliser et assez responsable pour les utiliser dans les bonnes conditions.
Quels sont les accessoires pour aider les malade, à quoi sert la machine qui mesure le rythme cardiaque? À quoi servent les poches
D'eau.
Les poches d'eau? De sang?
Non, les...
Ah, les poches qu'on...
Les poches, oui, quand on... Oui.
Attends, j'ai un trou là. C'était quoi le début de la question?
Quels sont les accessoires pour aider les malades?
Les accessoires, bah, les objets médicaux, on en a plusieurs, dont notamment, par exemple, chose que vous pouvez voir un peu partout, les défibrillateurs. Très, très important, quand il y a un arrêt cardiaque, c'est une machine qui va envoyer un petit courant électrique pour remettre le rythme du cœur en place. Après, on a énormément de matériel, bah, tous les matériels qu'on a au bloc opératoire, les infirmiers qui prennent la tension, un électrocardiogramme qui va enregistrer le rythme cardiaque, c'est des choses... qui vont nous aider à comprendre un peu chose qu'il y a un examen clinique et puis ça c'est des mesures qu'on peut pas voir cliniquement qui vont nous permettre de voir les organes internes et ce qui fonctionne plus ou moins bien ou pas.
À quoi servent les poches, on va dire, d'eau qu'on accroche avec le truc et aussi les poches de sang?
C'est quoi?
Les poches transparentes, l'eau que vous voyez, en gros, c'est plus ou moins une composition. C'est pas vraiment de l'eau, mais il y a des petites choses à l'intérieur qui fait que quand le patient, par exemple, il est complètement déshydraté, son sang, en fait, le liquide qu'il y a dans le sang, il est très affaibli. Il y en a pas beaucoup, donc c'est des apports qu'on va apporter pour qu'il a assez de sang dans le corps ou de liquide dans le corps pour aller perfuser tous les organes nécessaires. Donc c'est vraiment des outils, c'est comme un médicament en fait. Tout ce que tu apportes à un patient autre qui n'est pas à son corps, c'est considéré un peu comme un médicament. Oui.
Ça veut dire que si on va dire le patient il perd beaucoup de sang, on prend des poches de sang. Exactement. Pour en remettre.
Exactement.
Les poches de sang, pareil, quand un patient il saigne beaucoup, t'es obligé de lui apporter le sang parce que si, en fait, c'est ton sang qui va te ramener de l'oxygène dans le corps et en fait, s'il n'y a pas assez de sang, les organes vont pas être oxygénés. Et apparemment, quand les organes sont pas oxygénés, ils vont mourir. Donc, c'est très important qu'ils soient très rapidement oxygénés. Donc, le sang, on va en apporter. Après, il y a des compatibilités de sang. Tous les sangs ne peuvent pas être donnés pour tout le monde. Et puis, voilà. Mais en tout cas, c'est ça, oui. On peut apporter du sang.
Pourquoi les patients portent-ils des vêtements particuliers, des blouses bizarres?
Qu'est-ce que tu appelles par blouse bizarre?
Les genres de... Je sais pas, les genres de robes parfois qui portent la bizarre.
Ouais, bizarre dans le sens parce que c'est ouvert un peu...
Ouvert sur les côtés.
Oui, j'ai trouvé ça très bizarre aussi quand j'ai débuté. Surtout, enfin, sur le moment, je me posais de l'intérêt de la question parce que souvent, les patients, ils sont les fesses en l'air.
Voilà,
c'était ça le bizarre, le terme bizarre. C'est surtout pour une question pratique. Quand on hospitalise un patient et qu'il nous fait un arrêt, par exemple, sur le moment, même si ça arrive très rarement, il faut quelque chose de très léger qu'on peut enlever facilement. Quelqu'un que tu vas lui enfiler un pantalon, une veste bien couverte, tout ça, pour lui enlever, pour mettre un défibrillateur ou pour apporter un soin, ça va prendre un certain temps. Et en fait, en médecine, quand un patient a vraiment son pronostic vital engagé, le temps est très très important, donc plus vite tu fais les gestes et plus ça va sauver le patient. Donc c'est une blouse que tu peux tirer par-dessus et ça va s'enlever en quelques secondes et puis tu peux procéder au sang. C'est ça l'intérêt.
Quelles sont les règles déontologiques à suivre par la médecine?
C'est très vaste. Déontologique, il y a beaucoup, beaucoup de lois également qui régissent ça. La plus importante, par exemple, le secret médical. Le secret médical, il y a beaucoup de choses qu'en tant que médecin, on doit être emmené, par exemple, on n'a pas avoir de jugement sur les patients, on doit soigner toute personne qui vient aux urgences, on doit donner le même type de soins sans voir est-ce que la personne est aisée ou pas, du quel milieu professionnel il vient, donc il y a beaucoup de choses, après c'est des choses un peu pratiques aussi, on apprend sur le tas. Voilà, il y a sans trop rentrer dans les détails parce qu'après c'est trop de détails poussés et sans...
C'est quoi taisé?
Être taisé, en fait, comme je vous disais, je suis encore en cours de spécialisation. Donc, quand on est interne à l'hôpital, on se spécialise pour une spécialité en particulier. Et à la fin de ce cursus, on doit faire en parallèle un travail de recherche qu'on doit présenter. Et en fait, c'est un moment un peu particulier où on présente le travail de recherche qu'on a fait, qu'on appelle la thèse, sur plusieurs mois, voire années. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître, le fait d'être thésé, c'est on est docteur en médecine. Là, pour le moment, je suis médecin, pas docteur. Et le fait d'être thésé, ça me donnera vraiment le diplôme complet, dire je suis docteur en médecine de cette spécialité. Et c'est ça qui va m'autoriser à exercer plus tard indépendamment, de manière autonome, en fait.
Quelle est la responsabilité la responsabilité du docteur en cas d'accident sur la table d'opération?
Alors en médecine, que ce soit au bloc opératoire ou pour tout type de soins qu'on apporte aux patients, il y a des fautes professionnelles. Ça veut dire que moi, en tant que médecin, j'ai pas fait les bonnes choses pour la bonne pathologie ou que j'ai omis de faire quelque chose qui devait être fait à ce moment-là. Donc là, c'est une faute professionnelle qui peut être amputée directement à la personne qui a fait la faute. Un incident qui arrive, qui n'était pas évitable, ce qu'on appelle les aléas thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est comme un effet secondaire d'un médicament qu'on prend. Par exemple, quelqu'un qui prend un médicament, il y a une liste d'effets secondaires, c'est des choses qui peuvent arriver comme qui peuvent ne pas arriver, mais il n'y a pas de risque zéro, comme pour tout métier. Quand ça arrive, malheureusement, ça arrive. Donc, un incident qui arrive sur la table d'opération, tout a été respecté dans les règles et que malgré ça, il y a des complications, c'est pas le médecin qui a fauté, c'est des choses qui arrivent, c'est des complications, c'est un aléa thérapeutique. Malheureusement, le patient, il va peut-être garder des séquelles ou autre chose, mais voilà, c'est pas le médecin qui va être imputé ou c'est pas la faute à quelqu'un. Malheureusement, ça arrive en fait, c'est des choses qui arrivent.
Si une personne visiblement frappée de démence attaque personnelle, soignant ça relève de la médecine ou de la justice?
Si le patient il a des problèmes psychiatriques, ça veut dire que le patient il n'est pas conscient de ce qu'il fait. À partir du moment où quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, il n'est pas imputable par la loi. Enfin, on ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit qu'il aurait fait. Donc c'est pour ça que quand un patient, il va être... une personne en général, hein, quand il fait un crime ou quelque chose, il y a une évaluation psychiatrique, voire médicale derrière pour voir ce que la chose qu'il a fait, il a fait volontairement ou est-ce que c'est un problème médical qui aurait fait qu'il n'était pas lui-même. Et à ce moment-là, non, c'est juste des soins qu'il faut lui donner à ce patient. Il n'y a pas de... C'est pas la justice qui rentre en jeu, c'est juste l'hôpital qui prend en charge. En général, c'est des services spécialisés. Quand on sait qu'ils ont des problèmes psychiatriques, il y a des équipes spécialisées qui savent gérer ce genre de problème. Et il y a des médicaments aussi pour les faire calmer dans ce cadre-là. Donc malheureusement, ça m'est déjà arrivé de se faire blesser par un patient qui n'était pas lui-même ou agité. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça fait partie du métier aussi.
L'euthanasie est-elle possible ?
L'euthanasie en France, non. Parce que l'euthanasie en soi, le terme, c'est est-ce que nous, en tant que médecin, par un médicament ou autre, est-ce qu'on peut donner la mort à quelqu'un, que même si le patient nous le réclame. Ça, c'est interdit en France. En revanche, il y a la loi Leonetti qui a été mise en place en 2005, qui gère justement la fin de vie des patients. En gros, quand les patients ils ont des maladies un peu incurables, qu'on peut pas les sauver et qu'il n'y a pas de soins particuliers à leur donner, à ce moment-là, il y a le soin palliatif qui va rentrer en jeu. C'est pas des soins qui vont faire qu'on va guérir le patient, on va arrêter les soins thérapeutiques guérir, on sera plutôt dans le confort. Donc ça va être des médicaments qui vont soulager des douleurs, ça va être beaucoup de choses mises en place autour pour leur faciliter la vie, pour qu'ils puissent décéder dans le court terme dignement. Récemment, il y a une autre loi qui est venue appuyer cette loi pour dire qu'en gros, je crois que c'était une loi 2016, pour dire qu'en gros, la volonté du patient rentre beaucoup en compte parce que quelqu'un qui... c'est important, les directives anticipées, ce qu'on appelle les directives anticipées, c'est quand moi, je vais bien et que tout le monde va bien et que j'écris « oui, s'il m'arrive un accident et que je suis tétraplégique ou que je fasse un arrêt », ne me réanimez pas. Par exemple, ça, c'est la volonté que je dis. J'ai pas envie de passer comme un légume toute ma vie, le restant de ma vie dans un lit. Donc, à ce moment-là, c'est mon choix qui va rentrer en jeu si je suis en capacité de s'exprimer. La loi qui nous dit, le fait de donner la mort, c'est pas possible, mais quelqu'un qui, ce qu'on a le droit récemment de faire, quelqu'un qui est vraiment en souffrance, on a vraiment du mal à le soulager, malgré tous les médicaments et qu'il est toujours en souffrance, parfois physique, mais aussi morale, et qu'on sait que de toute façon, il va décéder bientôt, et ben, à ce moment-là, la loi récente nous permet de le sédater le patient profondément. Ça veut dire qu'on va l'endormir, très profondément jusqu'à qu'il décède. Donc, parfois, ça peut durer des jours, voire des semaines, mais ça, c'est possible. C'est quelque chose qui est possible de le faire maintenant.
J'ai juste une question.
On va dire quand une personne qui est, on va dire, évanouie, qui est inconscient, et qu'on essaye de le réanimer, mais il reste toujours inconscient. Ça veut dire qu'on peut rester combien de temps inconscient ?
Très bonne question. Quelqu'un, en fait, ça, c'est le médecin qui décide. Quelqu'un, tu vois, en patient qui a fait un arrêt cardiaque, par exemple, dehors. Si c'est un vieux papy que tu vois qu'il est déjà très âgé, soit on connaît, ça se fait à l'hôpital et qu'on connaît le dossier du patient, soit c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. À ce moment-là, le cerveau, à partir du moment où il n'est plus irrigué, enfin, il n'est plus oxygéné, il va mourir très, très vite. Donc, c'est aussi, en tant que médecin, de dire on va réanimer le patient. Au bout d'un moment, on va faire tout le nécessaire et qu'on voit que s'il repart pas, c'est aussi à nous de dire stop, en fait. Parce que même si, imaginons qu'on arrive à récupérer au bout d'une heure de réanimation, on va amasser, on va mettre tous les médicaments possibles et qu'au bout d'une heure, on arrive à récupérer le patient. Et en fait, l'idée, c'est que derrière, même si on arrive à récupérer le patient, le cerveau, il est mort. Donc, le cerveau ne va plus fonctionner normalement. Quand le cerveau ne fonctionne plus normalement, en gros, le patient, il est considéré comme décédé, où il va garder des séquelles, mais très, très importantes, où il va probablement plus se réveiller, mais les organes, ils seront repartis. Ils vont tout fonctionner normalement, mais le cerveau ne récupère pas. À ce moment-là, il est considéré comme décédé. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que médecins, c'est aussi notre rôle de se dire jusqu'à combien de temps on va réanimer le patient.
Alors, j'ai juste une question. Bah, par exemple, quand une personne s'ouvre le genou et que l'os y sort, par exemple, je dis n'importe quoi, un joueur de foot, bah, est-ce qu'il est pris directement par l'hôpital ou est-ce qu'il doit attendre longtemps?
En soi, une fracture, malheureusement, c'est pas... Enfin, malheureusement, c'est pas malheureusement. En fait, les urgences, quand ils arrivent aux urgences, il y a beaucoup de gens qui arrivent pour des non-urgences. Donc, quand on les classe, il y a presque 70, voire 80% qui arrivent pour des choses pas urgentes, donc qui peuvent nécessiter d'aller voir le médecin traitant. Des fractures en soi, ça a l'air impressionnant, mais c'est pas quelque chose qui va mettre la vie du patient en jeu. Quelqu'un qui se casse le pied, tant qu'il saigne pas et qu'il n'y a pas beaucoup d'urgence vitale sur le moment, il peut être opéré à distance en fait, donc pas forcément le jour même. Quelqu'un qui y a pas, on arrive à stabiliser, il peut être hospitalisé et opéré le lendemain. Tout dépend dans quelles conditions il est à ce moment-là. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de sang ou pas? Est-ce qu'il faut absolument aller l'opérer tout de suite ou pas? Mais en soi, c'est pas une urgence qui doit être prise tout de suite.
Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir aidés. Merci de nous avoir consacré du temps. Bonne continuation, Ouma.
Eh ben, merci à vous. Je ne sais pas si vous avez tout compris, s'il y a des questions ou des précisions.
Est-ce que vous êtes médecin généraliste ?
Non, du coup, je ne suis pas médecin généraliste, je suis urgentiste. Avant, c'était les médecins généralistes qui faisaient un an supplémentaire pour être urgentiste. Maintenant, c'est une spécialité à part entière. Donc, une fois que je vais être thésée l'année prochaine, donc quand je serai thésée, je serai urgentiste à part entière. Donc, je ne pourrai plus exercer en cabinet.
On va dire, s'il y a quelqu'un qui est blessé et que vous allez partir en urgence avec le camion de SAMU, et que vous êtes dans les bouchons, comment vous faites ?
Bonne question. C'est pour ça qu'il y a les sirènes, normalement, ce que vous voyez. Et après, c'est la bonne volonté des gens aussi. En général, quand vous voyez une ambulance avec une sirène, c'est qu'il y a une urgence. Donc, il faut que les gens... en général, les gens s'écartent. Voilà. Et puis, malheureusement, s'il ne peut pas s'écarter, il ne peut pas s'écarter. Mais les gens nous facilitent en général pour qu'on puisse avancer.
Mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient à l'hôpital, mais par exemple, il a bu beaucoup d'alcool et qu'il a en même temps une crise cardiaque, d'abord, il va falloir le calmer ou il va falloir faire un test cardiaque?
Alors, quelqu'un qui vient alcoolisé, qui a une crise cardiaque. Alors, crise cardiaque prime, ça veut dire que son cœur ne fonctionne plus, donc il faut le réanimer. En soi, l'alcool va pas forcément rentrer en jeu, parce que s'il fait un arrêt cardiaque en soi, il sera pas conscient. Donc, limite, on sera même pas sur le moment s'il est alcoolisé ou pas. Après, s'il arrive et qu'il est très agité, mais qu'il se plaint de douleurs thoraciques, et qu'on sait pas trop si c'est le problème de cœur et tout, c'est important de faire les deux en même temps. Donc, tu vas donner quelque chose pour calmer ton patient, pour qu'il soit un peu apaisé, et en même temps tu vas faire tout l'examen nécessaire, parce qu'un arrêt cardiaque ou une crise cardiaque, c'est très très important de le gérer rapidement et donner le traitement nécessaire. Donc oui, le crise cardiaque prime. Oui.
Est-ce qu'une personne en situation de handicap peut perdre son handicap en 20 ans ou il le garde pendant toute sa vie?
S'il peut guérir de son handicap, c'est ça? Tout dépend de quel type d'handicap. S'il est amputé, après maintenant il y a beaucoup d'handicaps qui, la recherche médicale fait qu'on a réussi à quand même supplémenter pas mal d'handicaps. Par exemple, quelqu'un qui a amputé des jambes, il a des prothèses. Quelqu'un qui a une audition qui amoindrit, il y a des prothèses auditives aussi. Récupérer d'un organe qui est mort, on peut pas le récupérer, il peut pas venir à son état antérieur comme si de rien n'était, mais les moyens sont faits que on peut faciliter sa vie pour qu'il puisse vivre plus ou moins normalement avec ce qu'on peut lui apporter.
Est-ce que c'est dangereux qu'un bébé ait de la fièvre?
Si c'est dangereux qu'un bébé ait de la fièvre, c'est pas anodin. Qu'un bébé a de la fièvre, il faut voir pourquoi il a de la fièvre. C'est important, dans tous les cas, si un bébé a de la fièvre, d'emmener aux urgences, voir pourquoi il a de la fièvre. Après, il y a beaucoup de pathologies. Souvent, s'il y a une infection, il faut chercher d'où vient l'infection et le traiter.
Est-ce qu'on peut mourir d'un cancer du poumon?
Oui, c'est même très mortel. Je crois que c'est le deuxième cancer mortel pour les hommes, dû au tabac surtout. Donc oui, on peut mourir d'un cancer du poumon. Après, le cancer du poumon qui est pris à temps, il y a des greffes pulmonaires qu'on peut faire pour complètement guérir le patient, parce qu'on a quand même deux poumons, donc on peut quand même vivre sans un poumon, entre guillemets. Oui, on peut aussi mourir, parce que souvent les cancers... Tant qu'il laisse et reste localisé, peu importe type de cancer, on peut, si on s'est pris à temps, on peut réussir à le guérir. Mais le problème, c'est quand ça se métastase, ça veut dire que ça envoie des cellules un peu partout dans le corps et que ça contamine un peu tout le corps en général. À ce moment-là, c'est difficile.
Comment est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un cancer du sein, par exemple?
C'est pas des choses qu'on peut faire. Après, cancer du sein, il y a une part génétique. Donc, souvent, il y a des personnes qui sont prédisposées à avoir des cancers du sein. Si dans la famille, il y a beaucoup de cancers du sein ou d'autres, il n'y a pas forcément des causes qu'on peut éviter. Donc, c'est pour ça qu'en France, pour les femmes, il y a des dépistages réguliers à partir d'un certain âge où il y a beaucoup plus de risques d'avoir un cancer du sein. Donc, il y a des mammographies, il y a des échographies à faire, il y a des dépistages. Et pareil, c'est important aussi de se le palper. En fait, les seins, il faut les palper, voir est-ce qu'on sent quelque chose d'anormal ou des masses, tout ça. Et après, consulter un médecin si on a des doutes. Mais pas à votre âge, hein. C'est beaucoup plus tard, hein, après 50 ans.
Comme vient de dire mon camarade tout à l'heure avec le truc cardiaque, comme il est alcoolisé, il faut pas faire un test d'alcoolémie en moment avant de voir qu'est-ce qu'il a eu.
Oui. Souvent, quand le patient il arrive aux urgences dans la prise en charge, on fait une prise de sang. Donc dans la prise de sang, on comprend il y a des enzymes cardiaques pour voir si le cœur il fonctionne. Mais en même temps, on peut également prélever, voir le taux d'alcoolémie dans le sang. Donc tout est fait en parallèle. Donc il n'y a pas de... dans la prise de sang, tu peux regarder tout. Donc il n'y a pas de besoin de choisir l'un ou l'autre en priorité.
Est-ce que vous avez... je voulais savoir, vous avez quoi comme type d'instrument pour pour repérer, par exemple, sentir le cœur battre, tout ça.
Il y a le stéthoscope du médecin, ce que vous voyez à la télé. C'est quelque chose, en fait, qui va permettre d'amplifier le son. C'est, ça va faire que le son qu'on n'entend pas... de manière normale, ça va amplifier le son qu'il va entendre. Donc, c'est ça qui va nous permettre de voir s'il y a des souffles cardiaques, si le cœur y bat régulièrement, s'il y a des soucis à ce niveau-là. Ça nous permet aussi d'écouter les poumons, donc voir s'il y a une infection de poumon, si ça respire bien. On peut aussi écouter le ventre avec, donc oui.
Mais aussi, c'était pas le seul instrument. Vous avez, est-ce que vous avez d'autres instruments à part celui-là pour faire d'autres choses, par exemple pour regarder à l'intérieur des oreilles, pour les espèces de marteaux pour la jambe, savoir si on a mal ou pas. Est-ce que vous les avez et si oui, comment est-ce que ça s'appelle?
Oui, il y a beaucoup d'instruments. Il y a l'otoscope qu'on va permettre de voir les oreilles, voir s'il y a une infection, s'il y a quelque chose qui est coincé. Pareil, au niveau de la bouche, on peut prendre un petit... c'est des bouts de morceaux de bois pour voir le fond de la gorge. On a le marteau réflexe pour voir si les réflexes sont là. Après, en tant qu'équipement médical, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour analyser le patient rapidement. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choses. Donc, c'est important de constater rapidement l'état d'urgence du patient. Donc, après, oui, il y a beaucoup plus d'instruments pour les neurologues. Par exemple, ils ont des diapasons pour voir un peu si les nerfs, ça conduit bien. Donc, c'est un peu des équipements un peu spécifiques en fonction de la spécialité.
C'est une fois mon frère il a eu de la fièvre et ma mère lui avait pris une douche et comme c'était l'heure de la sieste, après la fin de la sieste, je l'ai vu tout bloqué, les yeux ouverts, il n'arrivait même plus à bouger, voilà, il bougeait presque plus. Je crois qu'il était entre deux, il avait 2 ans à ce moment-là. Ma tante en fait, elle avait dit à ma mère que c'était pas bien de pour un bébé de 2 ans, voilà, qu'en fait, s'il avait de la fièvre et qu'on lui prenait une douche, c'était pas bien. Et si ça refait une deuxième fois, c'est encore pire. C'est vrai?
Alors, pour en revenir un peu, c'était la question aussi de la fièvre. En fait, la fièvre en soi, c'est pas mauvais. C'est un signal du corps pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ça qui va nous permettre de se dire, OK, il y a peut-être une infection, quelque chose. C'est des signes d'alarme. En soi, c'est pas dangereux tant que le corps, il supporte bien. Le problème de la fièvre, c'est que quand arrive un certain niveau de température, le corps va moins bien le supporter, le cœur va moins bien le supporter, donc le cœur va se mettre à battre vite. À ce moment-là, c'est important de baisser la température, donc de ne pas couvrir les patients ou les enfants. Donner une douche froide, c'est important de ne pas refroidir les patients trop vite. Donc les changements de température un peu extrêmes, de passer de 40 degrés à quelque chose de 30 degrés et de le refroidir, le corps il n'a pas le temps de s'adapter. Donc les changements extrêmes sont à éviter. Après des tissus humides sur le front pour faire baisser un peu la température ou un peu de doliprane pour faire baisser la température, c'est bien. Mais pas de douche froide directement. Donc, en fait, le corps, il va réagir, il va se mettre en sidération et il va bloquer la respiration, en fait. C'est ce qu'on... Parfois, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, des douches froides, mais vraiment froides. Ça va vous couper le souffle un moment et après, vous reprenez. Donc, je pense que le bébé, il a eu une petite phase un peu comme ça. Ton frère, pardon.
En tout, il y a combien de cancers? Vous pouvez nous dire, il y a tous les cancers qu'il y a? Cancer?
Quasiment tous les organes peuvent avoir des cancers. Cancer de peau, des os, du sang. Tous les organes qu'on a dans le cœur peuvent avoir des cancers. Surtout, comme j'ai expliqué le métastase, en fait, particulièrement certains organes sont plus aptes à faire des cancers locaux. Et après, ils vont envoyer des petites cellules un peu partout. Donc le cerveau, tout type d'organe, à part le cœur, tout type d'organe peut avoir un cancer.
Ça peut partir de combien que ça peut devenir dangereux pour le bébé d'avoir de la fièvre?
Encore une fois, c'est pas la température en soi, c'est comment le bébé il supporte. Si le bébé il a 39 de température et qu'il va bien, il sourit, il continue de jouer et qu'il va bien, il n'y a pas besoin forcément de s'inquiéter. Il y a un autre bébé qui va avoir 39 et qu'il va être à plat et qu'il ne va pas supporter. Et là, il faut agir vite.
Est-ce qu'une personne atteinte de sciatique peut en mourir?
sciatique, en soi, une sciatique banale, c'est pas grave. En fait, le sciatique, en soi, c'est juste un nerf qui se coince au niveau de ta colonne pour faire des douleurs. Mais si en fait, tes disques vertébraux, ils vont écraser un bout de nerf plus important, il va pas mourir, mais ça peut laisser des séquelles. Séquelles, par exemple, si ça coince les nerfs un peu plus bas, tu peux perdre l'usage de tes sphincters, tu peux pas contrôler ta vessie, ni ton anus. Donc, tu peux pas mourir de ça, mais tu peux avoir des séquelles fonctionnelles qui peuvent être très gênantes.
Est-ce que apparemment, quand on a 40 degrés de fièvre, on doit aller à l'hôpital. Est-ce que c'est mortel d'avoir 40 de fièvre?
Vous êtes très intéressé par de la fièvre. 40 de fièvre, le corps humain fait que, en fait, 40, c'est une température qui est très élevée en soi. Donc, arrivé à 40 températures, le cœur, il va moins bien supporter. On va pas en mourir de ça. Mais les organes, ils vont être plus en plus touchés. Donc, c'est important d'aller voir pourquoi on a de la fièvre. Par exemple, une grippe banale peut donner 40 de fièvre. Il faut voir pourquoi on a une fièvre. Est-ce que c'est une bactérie ou est-ce que c'est un virus? Il y a des, pour un virus, il n'y a pas forcément de traitement. Pour une bactérie, il y a des antibiotiques. Donc, c'est important d'aller voir pourquoi on a ça et s'il y a des traitements adéquats ou pas.
Est-ce qu'une personne atteinte de la grippe espagnole peut en mourir encore ou elle existe encore?
En soi, l'histoire de la grippe espagnole, c'est même pas espagnol, je crois, si on remonte un peu. C'était pendant la guerre, il y a eu beaucoup de transports. C'est pas encore si c'est européen ou si c'est américain. La grippe espagnole, elle n'existe plus en tant que telle. C'est une forme de grippe. Et en fait, les virus, ils mutent, en fait. Le problème des virus, c'est que leur ADN est tellement... en fait, quand ils se multiplient tellement, les virus, qu'il y a des erreurs qui se glissent. Et du coup, c'est pas les mêmes formes de virus qu'on en récupère. C'est comme ce que vous voyez avec le Covid. On parle de plusieurs variants de Covid. Donc, le Covid, c'est un virus aussi. Et donc, avec la multiplication, ça change de forme. Donc c'est pour ça que pour la grippe en soi, tous les ans, il y a des vaccins qui sont différents parce que c'est pas les mêmes formes de grippe qu'on a, c'est pas le même virus qu'on a.
C'est une question un peu bizarre à poser, mais j'ai entendu parler d'un genre de concert, comment dire, des poils, voilà. Mais en gros, c'est partout dans le corps ou... Juste à certaines parties, voilà.
Un cancer avec des poils?
Je sais pas, mais voilà. Un truc, voilà, en rapport, je sais pas. J'ai pas bien compris, en fait.
J'ai pas bien compris, non plus.
Un cancer de la peau, c'est ça?
Non, des poils. Genre,
par
exemple, on a rien. Genre, presque rien. Je sais pas.
Ah, si localement... Après, si ta peau est affectée localement, tu peux avoir à ce niveau-là, si ça affecte la racine de la poêle, oui, tu peux avoir, mais c'est pas forcément des formes de cancer qui sont importantes, ou ça peut être plusieurs affections de la peau sans forcément être des cancers. Après, tout dépend de l'étendue, si c'est plus ou moins généralisé ou si c'est localisé. Je sais pas si c'était ça la question, mais...
C'est à partir de quel âge les cancers?
Il n'y a pas vraiment d'âge. C'est vrai que pour certains types de cancers, comme le cancer du sein, on les voit plus souvent après 50 ans. Des bébés peuvent avoir des cancers du sang. Par exemple, des leucémies chez les enfants, c'est plus fréquent. Donc, il y a plusieurs types de cancers et plus ou moins fréquents à un certain âge ou à certains types de personnes. Il y a des cancers particuliers, spécifiques de l'homme, de la femme, des enfants. Donc, il n'y a pas forcément d'âge.
C'est juste une question comme ça. S'il y a une maladie, on va dire, quelqu'un qui perd ses cheveux, c'est quoi comme maladie?
Ça s'appelle une alopécie. En soi, c'est pas forcément une maladie parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire que tu perdes tes cheveux. Donc, le terme médical, l'alopécie, c'est que t'as plus de cheveux et t'as tout perdu. Mais en soi, plusieurs types de... Par exemple, une carence en fer ou quelqu'un qui est anémié, ils peuvent perdre des cheveux, des carences vitaminiques ou d'autres maladies. Donc, il y a plusieurs causes. Il faut chercher la cause, en fait.
Est-ce qu'on peut avoir un cancer bébé?
Une leucémie, par exemple, un cancer du sang.
Et c'est que parfois, il peut avoir des bébés qui vivent juste une minute et puis la minute après, elles meurent.
Oui, t'as les morts subites du nourrisson. Parfois, on n'a pas forcément la cause et parfois, on peut avoir des causes. Soit il s'est asphyxié avec son drap ou sa couette. C'est pour ça que maintenant, on conseille aux parents de ne pas mettre de draps séparés. C'est dans leur combinaison, en fait. Ils ont des vêtements avec le drap intégré pour qu'ils puissent justement éviter qu'ils s'étranglent ou qu'ils s'asphyxient avec les draps. Mais oui, on peut avoir des causes. Parfois, on n'a pas forcément de causes. T'as des bébés qui meurent et après, on arrive parfois après la bataille et qu'on comprend pas trop ce qui s'est passé. Et oui, ça arrive.
C'est pas après le cancer qu'on perd nos cheveux? Quand on a le cancer, qu'on perd nos cheveux
C'est pas le cancer en soi qui va faire perdre tes cheveux, c'est les traitements que tu mets pour ça. Donc une personne qui a il y a plusieurs types de traitements, t'as des radiothérapies, donc envoyer des rayons, t'as des chimiothérapies, mettre des molécules, enfin c'est des médicaments qu'on prend. En fait justement c'est la chimiothérapie, donc par ces médicaments ils sont tellement agressifs que tu perds tes cheveux, mais c'est pas le cancer en soi, c'est le traitement du cancer qui fait que. Et c'est provisoire.
On va dire si vous êtes en urgence. Quand vous allez chercher, on va dire, un blessé et que vous revenez à l'ambulance et que soudain vous faites un accident, vu que le patient il est accroché au brancard ou...
Si on fait un accident, est-ce que le patient il est protégé, c'est ça? Oui, en fait, il y a le lit du patient, donc on les couche et on les attache, il y a une ceinture. C'est parfois nous qui sommes en danger parce qu'on est parfois derrière l'ambulance, debout, à soigner le patient. Donc, c'est déjà arrivé que les ambulances aient des accidents et qu'on perd des médecins ou des infirmiers. C'est un métier à risque. Après, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Donc, voilà, oui. Et le patient, en général, est protégé.
Ça veut dire, si vous l'attachez et qu'il y a une personne, on va dire, qui est fou.
Oui.
Et qui est fou et que, en fait, il ne veut pas aller dans l'ambulance, vous êtes obligé de le tenir à plusieurs pour l'attacher sur le brancard et de l'attacher partout, du coup, pour pas qu'il bouge partout.
Oui, si le patient, j'aime pas trop le terme fou, mais si le patient il est agité et que, par exemple, quelqu'un qui est alcoolisé ou quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et qu'il n'est pas maître de soi, en soi, oui. Donc, pour ces patients-là, ils doivent être soignés. Donc, pour soigner, tu peux pas juste attacher un patient physiquement sans le sédater. C'est important de donner quelque chose pour faire calmer ton patient, pour qu'il ne soit plus attaché, qu'il est coincé et qu'il s'agite malgré le fait d'être attaché. Donc souvent, c'est par les deux choses qu'on joue, donc attacher à plusieurs et lui donner quelque chose pour l'apaiser.
Est-ce qu'une personne ivre trouvée sur la rue peut être violente envers les médecins ou ça a des conséquences avec la loi ?
Ivre, il peut être violent, oui. On reçoit des patients alcoolisés aux urgences ivres qui sont agressives. Mais encore une fois, on considère qu'ils ne sont pas dans l'état normal. C'est pas volontairement, en fait. Ils sont, entre guillemets, après l'alcoolisme et les lois, oui. Si quelqu'un qui conduit en étant alcoolisé et qu'il fait un accident, eh ben, c'est quand même sa faute. Donc oui, la loi va rentrer en jeu. Donc c'est pareil, s'il est alcoolisé qu'il va donner un coup de couteau à quelqu'un, oui, il est pénalisable.
Par exemple, c'est un petit de 6 ans voit une série, par exemple, qui est très violente. Je vais prendre, par exemple, une série au hasard. Squid Game. Par exemple, s'il voit cette série, est-ce qu'il va avoir des problèmes mentaux ou il va être traumatisé à vie ou ça dépend?
Ça dépend. Tu peux avoir les deux ou les deux à la fois, un des deux ou rien du tout. Tout dépend de l'état mental de l'enfant en soi. Il peut être influencé ou pas, il peut être très affecté ou pas. C'est tout dépend de comment l'enfant vit la chose et dans quel environnement il est. Tout rentre en jeu, en fait. Donc on peut pas prédire comment il va finir cet enfant, c'est très difficile.
Est-ce que vous pouvez prendre des personnes qui n'ont pas les papiers français ou vous pouvez les prendre quand même à l'hôpital? Oui.
C'est ce que je vous disais, aux urgences on prend tout. On ne peut pas refuser de soigner un patient. C'est pas quelqu'un, d'ailleurs on les soigne gratuitement. Ceux qui ont les moyens de payer via une assurance, ils payent. Ceux qui n'ont pas de carte vitale et qui n'ont pas, on les prend quand même. Donc nous en tant que médecins, on ne sait même pas si, en fait c'est à l'administration, ils font l'enregistrement. Et nous on a juste des dossiers patients, il y a un patient qui est devant nous. Donc nous on ne se pose pas ce genre de questions, on soigne le patient pourquoi il vient.
C'est juste un truc pour remerciement. Bah, merci d'être venu jusqu'à nous et nous consacrer du temps pour la classe.
C'est normal, avec plaisir. Avec plaisir.